Moi, j'ai 64 ans, j'ai perdu mon frère et ma sœur. Bon, c'est vrai qu'on a du bien. On voudrait, si vous voulez, en faire quelque chose, ou le vendre, ou en faire quelque chose. Et finalement, ça, c'est comme si on n'avait rien du tout. Alors, bon, c'est bête à dire. Bon, on a du bien, voilà, mais et puis on n'en fait rien. Et on n'a rien, même si on le vend, ça rapporte rien.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de notre série « Mémoire de la vallée du Salagou » consacrée au projet de réhabilitation du village de Selles au bord du lac. Les habitants de Selles ont été forcés à partir quand le lac artificiel a été créé à la fin des années 60. Le village devait être recouvert par les eaux, mais le niveau de l'eau s'est arrêté au pied des maisons désertées. Depuis 50 ans, quelques habitants, propriétaires de parcelles autour du bourg, se sont battus pour que Selles garde son statut de commune. Grâce à leur conviction, de nouvelles familles commencent à s'installer dans le bourg en ruine cette année, malgré les difficultés qui se dressent devant elles. Dans cette série de 4 émissions spéciales, d'anciens habitants nous ont raconté leur enfance dans la vallée avant le lac et le traumatisme des expropriations quand le lac a été rempli. L'émission d'aujourd'hui, troisième de notre série, se place après la mise en eau du lac. Tous les habitants ont quitté le village de Selles, tous, non, une poignée d'irréductibles va lutter pour que Selles reste une vraie commune et puisse revivre. Bichette, l'ancien chevrier qui a gardé le village en ruine pendant de nombreuses années, ou encore Henri Goudal, d'Iriri, devenu maire après les expropriations. Sa fille Joëlle est l'actuelle maire de Selles. Elle se souvient comment le village a été récupéré par ses habitants.
Mais le village, il devait être inondé parce que le barrage devait avoir une réhausse avec une digue du côté des Vaillés. Les services publics se sont rendus compte que ça valait pas le coup et que ça allait coûter beaucoup plus cher, que ça pouvait améliorer la situation. Donc le village est resté hors d'eau. Mais vu qu'il y avait eu des expropriations, il savait pas trop comment faire avec ce village. Il nous a été vendu le 11 septembre en 2010. Mais après, déjà là, une longue lutte.
Il nous a été vendu, c'est qui nous ?
C'est la mairie. La mairie est devenue propriétaire en 2010 de tous les bâtiments du village, plus les terrains adjacents. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on a pu avoir la main sur une réelle réhabilitation.
Vincent Courteau est l'un des nouveaux habitants de Selles. Pour lui, la lutte pour faire revivre le village a été primordiale.
Donc faut voir que Selles, c'est un élément traumatique qui a été vécu à l'échelle de la vallée, encore plus précisément pour les anciens Sellois. L'absence de propriété privée, c'est important pour ça aussi, parce que je pense que ça aurait été inconcevable pour eux que des gens fassent des sous avec leur ancienne maison, qu'il y ait des gens qui deviennent riches en profitant de leur ancienne maison. Ça, c'est important. Et parce que les derniers qui ont décidé de partir, ils ont été évacués par l'armée, on a déplacé leurs morts, enfin c'est un traumatisme assez important. Et donc les membres du conseil municipal, d'anciens habitants, donc il y a Mireille qui avait 16 ans à l'époque et Joël Goudal qui avait 6 ans. Voilà. Après, dans la vallée, j'ai rencontré plein de gens qui ont vécu ça, qui m'ont parlé, on échange quoi.
Vous avez l'impression de reprendre un peu l'histoire du village finalement ? C'est quoi votre sentiment par rapport à ça ? Parce que c'est particulier effectivement.
Ouais, l'histoire est là, c'est pas un territoire neutre, ça c'est sûr. Mais l'histoire s'est pas arrêtée en 69. Ça a été une histoire de lutte. Au contraire, c'est un mouvement depuis 50 ans de lutte pour ce village, pour résister, pour rester à vivre avec Bichette, le gardien, avec Henri Goudal, avec c'était pas les seuls, c'est tout un ensemble de populations qui s'est battu pour garder son statut de commune, pour garder une existence, pour pas se faire rayer de la carte. Donc c'est une longue histoire et c'est donc une continuité.
Joël Goudal.
Dès le début, tout le monde a voulu, tous les villages aux alentours voulaient s'approprier la commune de Selles, enfin pas se l'approprier, mais que ça grossisse les autres communes. Alors certaines plus que d'autres, surtout les gros bourgs. En fait, le sous-préfet a fini par dire qu'il faudrait peut-être que ça passe en Conseil d'État et que ce soit géré définitivement et déclaré définitivement une bonne fois pour toutes. C'est ce qui a été fait et en Conseil d'État, on a gagné. Je crois que c'était en 85. Et à partir de là, on a remis des habitants à Selles. Donc il y a eu deux appartements qui avaient été remis en état pour pouvoir gagner en Conseil d'État. Et à partir de là, il y a eu divers projets et un poste qui a été recalé, plusieurs projets qui n'ont pas pu voir le jour, mais qui nous ont permis, par leurs défauts, d'avancer et de se dire ben, « on ne va pas refaire les mêmes erreurs ». Et après, à partir de 2003, on a commencé à parler de ce projet-là, qui a reçu un avis favorable du département, et on l'a cousu avec l'intelligence collective. C'est pas un bureau d'études qui a fait ce projet. Ce projet, il a été fait par les étudiants des facultés de Montpellier, de Toulouse, de Paris, par le CNRS qui a donné ses idées, par des archis qui sont venus travailler dans un collectif et par tous les gens qui avaient envie de réfléchir sur Selles et sur ce que pouvait devenir Selles lors d'ateliers. Voilà, ça a vraiment été cousu. J'ai jamais vu des dames qui font de la dentelle, mais ça a vraiment été cousu petit à petit et plantage après réussite. C'est vraiment un projet humain.
Bernard a vécu dans une maison, aujourd'hui recouvert par le lac actuel. Il vit aujourd'hui à Pézenas.
Quel regard vous portez sur le projet de réhabilitation de Selles ?
Là, je ne sais pas, ça c'est... C'est Joël là-dessus qui s'implique énormément, et je sais pas. En fait, ça peut être bien bon truc, mais ça va être difficile, je pense, à pouvoir gérer une mairie comme ça, hein. Avec des habitants qui veulent habiter là, je sais pas. Dans un site classé, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau à faire là. C'est bien dans un certain sens pour avoir un village typique, disons, au bord du lac. Mais il faut voir que les habitants puissent y vivre.
Vous n'avez pas de regret de voir le village revivre alors qu'il a dû être abandonné ?
Non, parce que comme je vous dis, après, on en parle comme ça, mais sans plus, là, non.
Et vous vous voyez entre anciens habitants de la vallée ?
Ben, on se revoit plus ou moins, parce qu'il y avait des cousins quand même, on se revoit. Mais non, c'est vrai, bon, après, chacun un peu a eu sa vie. Est parti un peu à droite à gauche, disons, ça fait qu'on ne se revoit pas tous. Vraiment, si, il y a Mireille qui a essayé pendant quelques temps, là, justement, de regrouper un peu les anciens, là, de se retrouver une fois par an. Mmh. On a fait ça pendant 3 ou 4 ans, là, c'était très bien. Mais bon, après non, la vie suit son cours. Et
reprend son cours.
Reprend son cours, voilà.
Vous avez des enfants ?
Oui, j'ai 3 filles.
Est-ce qu'elles vous posent des questions sur cette vie d'avant ?
Non. Non, elles ont connu que Pézenas, là, et non, franchement, non, ça n'a pas été trop notre discussion. On a pu peut-être en parler certainement, mais je veux dire, c'était pas ça le sujet principal.
La vie a continué.
Voilà, tout à fait.
Martine Raymond, née Vergne, avait 14 ans lorsque ses parents ont été expropriés du village des Vaillés, aujourd'hui dans la commune de Selles. Elle habite maintenant au domaine des Bois-Boris, à quelques kilomètres du lac du Salagou.
Je pense qu'aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de personnes qui ont vécu ça.
Non. Ben, de notre génération, il y en a qui sont partis, avec qui j'étais à l'école à Selles, qui sont partis. Des familles de Selles, notamment Alain Servelle qui est parti, et qui c'est qui encore, sa sœur qui est morte aussi. Il reste que Claude. Après bon, on était une bande, on était quand même une quinzaine à l'école. Hein.
Il y a cette volonté parmi certains d'entre vous de garder un peu cette mémoire ?
Ah ben oui, je pense. Tout le monde en parle, hein. Oui, oui, oui. Avant, on faisait un repas à Celle. On refaisait un repas où tous les anciens... Après, on a continué, on a fait... Puis après, c'est tombé à l'eau et maintenant, on ne le fait plus. On se retrouvait chaque année, on faisait un restaurant. Et notamment, c'était Mireille qui organisait tout, qui retrouvait, qui téléphonait à tout le monde. Et après, bon, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont morts. Alors, elle a laissé tomber. Elle a plus voulu le faire.
Mireille
Nougaret.
Quel regard vous portez sur les réhabilitations de Celle?
Ah ben là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Joël m'a expliqué un petit peu, mais j'espère que ça va marcher. Hein. Ça serait bien quand même, plutôt qu'un village abandonné, quoi. Moi, je trouve que ça serait bien. Maintenant, est-ce qu'elle va arriver à faire exactement ce qu'elle veut? Ben, je lui souhaite. Je souhaite que ça marche. Hein. Parce que ça serait sympa quand même. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Nous sommes de retour dans l'émission Mémoire de la vallée du Salagou consacrée aujourd'hui au projet de réhabilitation du village de Celle. Un projet qui repose sur quatre piliers, comme l'explique Joël Goudal, actuel maire de Celle.
Ces quatre piliers, c'était les fondamentaux du conseil municipal. Quand on s'est mis autour de la table en disant on va écrire un projet et on va proposer un projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut dans ce projet ? Et dans ce projet, on voulait éviter la spéculation foncière, parce que on pensait, que par rapport aux anciens habitants, c'était pas bien. Et deux, c'est que si on accepte la spéculation foncière sur celle, ça veut dire que tout va partir autour du lac et on va plus pouvoir gérer et les jeunes vont plus pouvoir s'installer. Donc il y avait un danger. La deuxième chose, c'est la mixité sociale. Non, il était hors de question de faire un village pour telle ou telle partie de la population. C'est vraiment un village ouvert à tous. Et un village ouvert à tous où on travaille. Parce que on n'est pas un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc les gens qui viennent s'installer, il fallait qu'à chaque habitat corresponde une création d'emploi. Il faut un emploi. Ouais. Et la quatrième chose, c'était être le plus en accord avec l'environnement et avec le paysage, parce qu'on est dans un site totalement classé. La commune n'a pas un centimètre qui ne soit pas un site classé. On est la seule. Hein. Les autres ont des sites inscrits. Nous, on est totalement classés. Donc c'était ça, les quatre objectifs de la municipalité. Et chaque fois que quelqu'un est venu réfléchir ou nous a amené son savoir, il fallait pas qu'il perde de vue ces quatre objectifs.
Claude Servelle a vécu dans l'une des maisons du bourg, aujourd'hui en ruine, quand il était enfant.
Quand j'ai commencé à apprendre l'architecture, je voyais, comment dire, sur le village de Selles, je voyais un grand projet d'architecture, de laisser un peu, de réaménager, si vous voulez, le centre de Selles, mais de faire comme à cette époque-là, je fais du ski en montagne, et je voyais des grands complexes et tout. Je m'imaginais avec mais bon, il faut des investissements. Et depuis 50 ans, là, c'est au point mort. Hein, où est le goût se bataille pour, c'est très bien qu'elle se bataille, mais se bataille pour refaire revivre le village, et bon, c'est encore au point mort. Ça fait longtemps, hein, l'eau est passée sous le pont. Il y a eu aussi une chose, c'est que maintenant tout est normalisé, et on ne peut pas faire revivre le village comme c'était avant. Ce n'est pas possible, puisque avant il y avait des viticulteurs, et que maintenant il n'y a pas de viticulture, puisque les vignes étaient dans le lac, donc il ne peut pas y avoir de viticulture. Donc le projet consiste à faire revivre le village, mais par des gens, des entreprises, mais des entreprises qui viendraient s'installer sur, et qui vivent sur Selles. Alors peut-être que ça verra le jour, j'en sais rien, peut-être que je le vivrai, mais enfin bon, c'est sûr et certain, moi je fais de l'architecture, c'est sûr et certain, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre en 1965 comme on vit à l'heure actuelle, voilà, point final, c'est comme ça, c'est le progrès, on ne peut pas vivre. Donc il y a des entreprises qui s'installeront, mais d'abord il faut faire les commodités, voilà. Quand les commodités seront faites, on installera les gens. Pour l'instant, vous me parlez de ces signatures. Moi, je suis pas du tout conseil municipal. Moi, je vois ça de loin. Hein.
Voilà. C'est pour ça que je vous pose la question. De regard de loin, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ce que j'en pense, c'est très bien. Je veux dire, si se fait quelque chose sur celle, je serais très content. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut qu'il se fasse quelque chose. Ça fait 50 ans que ça dure. Le village de Selles, c'est maintenant, c'est la mairie, ça appartient à la mairie. Hein. Bon, j'ai assisté quand il y a eu la signature, j'ai assisté. Je pouvais moi-même, puisque j'étais ancien propriétaire, refaire ma maison, voilà, investir de l'argent sur ma maison, ma maison natale. Mais c'est une chose que je veux pas. C'est une chose que je veux pas. Voilà. Que quelqu'un d'autre l'habite, c'est très bien, mais moi je ne veux pas. J'ai vécu 12 ans de ma vie ici, à Selles, et je ne veux pas y retourner. Voilà. Non, moi, ma vie n'est plus à Selles. Voilà. Mais s'il y a des villageois qui viennent faire n'importe quoi, ben j'irai les voir comme ça. Je dirais, coucou, je suis né dans cette maison, et puis voilà, puis je repartirai, je serai très content. Alors que ce n'est pas du tout, je pense, et on en avait déjà discuté avec mon frère, c'est pas du tout la vie de mon frère. Mon frère avait pas cette optique-là. Mon frère, il disait, non, il faut pas que ça se fasse. Ouais, alors que moi, ça m'est égal.
Comment va se passer la réhabilitation dans les prochains mois? concrètement?
Alors, dans les prochains mois,
Joël Goudal,
après la fête, parce que le 13, le 14 et le 15, on va, après la cérémonie, on va quand même faire une super fête. Ça va être le départ du nouveau sel. Et 15 jours après, ou peut-être 3 semaines après, parce que quand on dit une date, on a toujours du retard, on va vraiment commencer les travaux de viabilisation, la station d'épuration et la mise en place de tous les réseaux, réseaux humides et réseaux secs, dans le village. Et en même temps, le syndicat des eaux du Lodévois va faire l'alimentation en eau du village.
Eau, assainissement, eau potable.
Alors nous, la mairie, c'est la distribution de l'eau potable, l'assainissement, l'éclairage public, l'électricité et la fibre. Et après, le ciel, c'est l'alimentation en eau potable du village. Tout ça fin septembre et les travaux vont, normalement doivent être faits en 3 mois et demi. Donc ça fait octobre, novembre, décembre, fin janvier, on peut dire que la viabilité de celle est finie. Et les travaux sur les maisons, les permis de construire là vont partir au mois de septembre. Donc le temps de que les permis soient instruits, voilà, on peut dire que fin 2020, début 2021, les travaux sur les maisons vont commencer. Alors, pour s'installer à Celles, c'est déjà dans la partie à réhabiliter. Et sur cette partie à réhabiliter, il y a 3 méthodes. Il y a les habitats sociaux, où il va y avoir entre 6 et 8 habitats. Chenelier va venir signer lui aussi le 13 septembre. La Fondation Chenelier, notre bailleur social. Après, il va y avoir les BRS sur une autre partie de la commune. Et une troisième possibilité, c'est la coopérative d'habitants. Et là, c'est APFAB qui gère la gestion des futures personnes qui pourraient être intéressées par cette coopérative. APFAB, c'est une association qui est basée sur Montpellier et qui s'occupe d'habitat coopératif.
Quelles sont les garanties pour les propriétaires qui leur permettent de se lancer dans des rénovations sans être propriétaire, parce que le bail réel solidaire, ils ne seront pas propriétaires.
Là, ils seront propriétaires du fond, pas des murs. Donc, ils vont réhabiliter leur maison, en avoir la jouissance pendant le laps de temps qui sera mis sur le contrat, où ils vont être considérés comme propriétaires. Ils payeront leurs taxes, ils payeront une micro-location pour les frais de gestion. S'ils veulent partir avant, ils peuvent partir avant. Et une fois le laps de temps écoulé de leur contrat, ou ils peuvent, s'ils ont des enfants qui veulent reprendre leur entreprise, ben, ou faire une entreprise qui soit en adéquation avec l'économie du village, les enfants peuvent être prioritaires. Sinon, ben, ils peuvent vendre leur fonds, sachant qu'ils ne peuvent pas faire de spéculation dessus, parce que l'Office foncier solidaire va donner le taux maximum d'augmentation. Voilà. C'est ce qui nous protège de la spéculation foncière. Et c'est eux, ce qui les avantage, c'est qu'ils sont sûrs de pouvoir récupérer au bout du temps leur investissement.
Plus le coût de la vie évalué par l'OFS.
De la vie. Voilà.
Alors, on est dans une zone particulière, le lac du Salagou, avec plusieurs strates de protection de l'environnement, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes pour s'installer ici?
Ça peut être considéré comme des contraintes, mais ça peut aussi être considéré comme une méthode de réflexion pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc, ok, c'est vrai, on ne peut pas tout faire. Mais en réfléchissant et en discutant, on trouve des solutions. Bon, pas sur... parce que toutes les parties naturelles vont rester naturelles. Moi, je vous parle de la partie commune de Celles. Voilà, sur le village, on a fait une OAP, une opération d'aménagement et de programmation avec les services de l'État. Vraiment, on a passé maison par maison, façade par façade. Et on est arrivé à trouver un consensus. Effectivement, après, tout ce qui est autour reste en zone protégée. De toute manière, même la mairie n'aurait pas voulu le mettre en zone protégée. Ça l'était, de toute façon. Ça n'empêche pas aux agriculteurs de s'installer. Et effectivement, oui, on est sur un terrain hyper fragile et hyper beau. Et voilà, comme toute chose qui a un intérêt, elle demande d'être encore plus protégée, quoi. Mais ça n'empêche pas, en tout cas, c'est pas ça qui va empêcher la réhabilitation de sel. Et même à l'époque où il était question de classer la vallée du Salagou, l'inspecteur du site de l'époque m'avait dit, c'est la meilleure méthode pour que les pouvoirs publics se rendent compte de l'intérêt du village, c'est que ça va être la perle dans un écrin. Maintenant, il faut en faire une perle. C'est là qu'est la difficulté. Mais voilà, il me semble que ce qu'on a fait et ce que vont faire les futurs habitants, ça va être.
Est-ce que la spéculation foncière est le plus grand risque de la future ville ?
Et la spéculation foncière, mais avec les nouveaux, Clément vous en parlera, avec les nouveaux systèmes proposés par l'État, on devrait arriver à le gérer. Après, c'est dans le choix des entreprises que les entreprises arrivent à bien vivre à celles et qu'il n'y ait pas de détournement. Mais je pense que celles qui sont choisies sont assez carrées et assez fortes pour pouvoir s'installer et vivre comme il faut.
Alors effectivement, on en reparlera avec Clément. Là, avec les habitants, qu'est-ce qui va être signé d'ailleurs le 13 septembre avec les futurs porteurs de projets ?
Alors, on aimerait que ce soit un BRS, un bail réel solidaire, sauf que c'est encore les décrets d'application vont être rediscutés à l'Assemblée nationale. Donc pour l'instant, on va re-signer un prêt à usage avec eux. Le prêt à usage, c'est 6 mois. Pour qu'ils puissent continuer à nettoyer leurs ruines et qu'ils puissent demander leur permis de construire en attendant que le BRS soit totalement au point. Il y a eu des décrets d'application qui sont sortis en 2018. Le BRS répond à toutes nos craintes, sauf que pour le milieu rural, il y a encore quelques petites choses qui ne sont pas vraiment adaptées. Et avant de signer un bail, il faut vraiment que ce soit nickel chrome.
Vincent Courteau.
Alors pour l'instant, les baux réels solidaires sont pas en place, parce que c'est une chose qu'on a commencé à creuser que depuis 6 mois. Et on veut pas faire d'erreur, donc ça va être long à mettre en place. Donc pour l'instant, on reste sur les prêts à usage, qui est une manière qui nous vient de juste à côté, d'un bastion historique du Larzac. La lutte du Larzac a amené donc l'État à se retrouver avec des terres agricoles à gérer. Donc il a passé ça à une société civile, la SCTL, qui est pas propriétaire du bâti ni du foncier, mais qui a la gestion de la chose. Et donc, ils font des prêts à usage, qui est un vieux droit, qui date du droit romain, qui est un des plus vieux droits. C'est ce qu'on fait tout le temps quand on prête son vélo à son pote pour aller de tel endroit, c'est voilà, c'est le prêt à usage. Et donc, là, ils prêtent des anciennes habitations contre un droit d'usage. Voilà.
C'est payant ?
Alors c'est un prêt, c'est gratuit.
Ouais,
c'est ça. Le BRS, il y a une partie en bail, donc il y aura par contre un loyer. Mais le but, c'est qu'il soit le plus minime possible pour que les gens aient les moyens de réhabiliter les ruines, quoi. Parce que si on met un loyer trop élevé, ils ne pourront pas réhabiliter.
Alors je m'appelle Clément Dumoulin, je suis le chargé de mission pour la commune de Selles sur le projet de réhabilitation du village. La mission, c'était d'accompagner l'équipe municipale sur le projet en globalité. Je suis arrivé en 2016, qui était, je pense, un moment charnière du projet, qui était vraiment de passer d'un projet qu'elles avaient réussi à construire, de passer d'une utopie à un projet, à le rendre opérationnel, que ce soit sur la viabilisation, donc tous les documents administratifs, que ce soit au niveau des documents juridiques, de manière générale.
C'est un projet particulier ?
Oui, je pense que c'est un projet unique, hein, de toute façon, de par son histoire, de par aussi les ambitions de cette toute petite commune qui a des ambitions énormes, peu de moyens, mais un engagement et presque un acharnement continu en tout cas. Ouais.
Il y a des nouveaux habitants qui vont arriver donc à partir du 13 septembre, en tout cas, il y a des signatures qui vont être faites. Quelles sont les garanties pour ces futurs habitants qui leur permettent de se lancer dans des rénovations, des restaurations de maisons sans être propriétaires ?
C'est assez particulier. Après, le dispositif, nous, là, qu'on a choisi, donc on parle d'une seule des modalités, des trois modalités d'installation sur le village, ça va être des bails réels solidaires. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Les décrets d'application sont arrivés en 2017, ça vient de la loi Allure. En fait, ça va séparer la propriété du bâti de la propriété du foncier. Ce qui veut dire que les habitants auront des réels droits de propriété sur leur habitation, qui leur donne en fait ces garanties, voire même qui leur donne les garanties par rapport aux banques pour pouvoir faire des emprunts, etc. Nous, ça répond quand même à notre ambition, l'ambition communale, d'éviter la spéculation, parce que ce dispositif permet de mettre des plafonds de revente.
Et ça va se passer sur combien de temps? Quelle durée? C'est beau.
Un des autres objectifs de la commune, c'est de lier l'habitat à une activité économique. Donc normalement, ça serait pendant la période de l'activité économique. C'est du temps long. Ça serait du 30, 40 ans, ce genre de temporalité.
Et à tout moment, les personnes peuvent partir?
Eh ben, avec ce système-là, oui, il y a une possibilité les occupants, les habitants ont une possibilité de revente de leurs biens. Après, justement, cet organisme, l'Office foncier solidaire, qui, elle, émet les bails réels solidaires, a un droit de regard sur l'éligibilité des futurs habitants.
La commune reste propriétaire ou...
Mais sur cette solution-là, non. Ce qui n'était pas forcément le but aussi sur l'ancien système, qu'on était parti sur des pré-usages inspirés du Larzac, il y avait quand même un bail emphytéotique et une SCI qui allait gérer tout ça. Donc là, on est parti sur un autre organisme, qui sont les OFS. Légalement, l'OFS doit être propriétaire pour pouvoir créer des bails réels solidaires. OFS, c'est des offices fonciers solidaires qui sont une structure juridique qui sont capables de délivrer les bails réels solidaires. Ils ont juste été créés pour ça. C'est une structure privée à but non lucratif. Après, c'est aussi une manière de pérenniser le projet, c'est-à-dire une commune de moins de 30 habitants, on ne sait pas quel avenir elle aura. Nous, le but, c'était quand même d'éviter la spéculation sur le village. Si ce n'est pas la commune qui est propriétaire, parce qu'elle ne peut pas assurer cette pérennité, c'est pas l'objectif, c'est d'éviter la spéculation et de favoriser la mixité sociale.
Il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle.
Un village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je le fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médite de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. J'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy pour glisser le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Nous sommes de retour dans l'émission Mémoire de la vallée du Salagou, consacrée au projet de réhabilitation du village de Selles. Nous retrouvons Claude Servelle. Comme d'autres anciens habitants, il reste propriétaire d'une parcelle autour du village de Selles, mais il regrette de ne pas pouvoir en profiter.
Il y a eu une fête organisée J'ai vu certains propriétaires de Celle, mais même un peu plus tard, par la suite aussi, j'ai vu certains propriétaires de Celle. Mais bon, on n'a pas, si vous voulez, on n'est pas fâché, mais ce sont des gens qu'on rencontre très très rarement. Voilà, soit à l'occasion d'un enterrement, soit.
C'était quoi le sentiment général entre anciens propriétaires ?
Le sentiment général, ben, c'est-à-dire que, bon, il se passe une chose, c'est que, bon, l'être humain est fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a du terrain, on a du terrain, je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est vrai qu'on a du bien, mais heureusement, ce n'est pas imposable. On n'est pas imposé. On n'est pas imposé parce que le thème d'un peu plus coûterait aussi cher que. Hein, on n'est pas imposé. Mais. On a du bien, et ce bien, c'est, comment dire, c'est comme si on n'avait rien du tout. Alors que ce soit moi ou que ce soit les autres propriétaires, on aurait voulu, on voudrait, mais si on le vend, ça va faire quoi? Ça va faire du rien du tout. La garrigue, c'est, ça paye des misères, hein, ça paye des misères. On a beaucoup de terrain, mais on n'a rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors que, bon... Moi, j'ai 64 ans, j'ai perdu mon frère et ma sœur. Bon, c'est vrai qu'on a du bien. On voudrait, si vous voulez, en, comment dire, en faire quelque chose, ou le vendre, ou faire, en faire quelque chose. Et finalement, ça, c'est comme si on n'avait rien du tout. Vous voyez ? Voilà. Alors, bon, c'est bête à dire. Bon, on a du bien, voilà. Mais, et puis, on n'en fait rien. Et on n'a rien. Même si on le vend, ça rapporte rien.
Quoi, c'est une impression de gâchis ou...
Bah, non, c'est pas du gâchis, mais d'injustice. Comment dire, non, mais on aurait voulu, je pense que tous on aurait voulu, comment dire, en tirer un parti, ou que ce soit quelque chose, d'en faire quelque chose, hein, pas y habiter, c'est pas ça, mais qu'il se fasse quelque chose et qu'on puisse avoir un peu d'argent, vous voyez ce que je veux dire? Mais et finalement, on n'a rien du tout. Heureusement qu'on ne paie pas d'impôts. De toute façon, les impôts, ils doivent bien comprendre qu'il n'y a rien. Là, il n'y a rien à déclarer. C'est comme si tu es bloqué. Vous voyez, si vous avez du terrain, vous ne pouvez rien en faire. Ni construire, hein, ni le. On pourrait le vendre, mais ça ne va rien rapporter. Vous voyez ce que je veux dire? On a du terrain pour rien. Voilà. Mais bon. Moi, je m'en fous. Je veux dire, c'est pas. Je m'en fous complètement. C'est vrai que je veux dire, j'aurais aimé que ça serve à quelque chose, que j'aie avoir un petit pécule, vous voyez. Parce qu'après, avec cet argent, j'aurais fait un voyage, j'aurais fait quelque chose. Mais finalement, c'est là, c'est bloqué, c'est rien. Bon, alors il s'est tourné. Vous le savez, il s'est tourné quand même plusieurs films dans le village. Hein, voilà. Il s'est tourné à Deux hommes en ville avec Jacques Gabin et Alain Delon. D'ailleurs, c'est le papa de Joël qui les avait reçus dans son hôtel. Enfin, Zone Rouge, hein, avec Richard Anconina. Bon, le site est joli, c'est agréable, mais c'est vrai qu'il faudra en faire quelque chose. Hein, faudra en faire quelque chose. C'est bête que les choses se dégradent comme ça. Seulement, ça coûte de l'argent. Il faut des investissements et ça, moi, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Hein. Moi, si j'ai 4 sous, je peux investir là-dedans.
Joël Goudal, comment la municipalité compte-t-elle garder la main sur les projets architecturaux? Je crois qu'il y a un plan local d'urbanisme.
Oui, on a fait un plan local d'urbanisme qui va être porté à validation à la communauté de communes en septembre ou en octobre, où justement, dans le plan local d'urbanisme, on a fait comme toutes les communes avec des zones, voilà, et après l'OAP sur celle qui, elle, définit les règles architecturales beaucoup plus prononcées que sur le reste du village.
Voilà. Un petit exemple, on en discutait tout à l'heure, il y aura la possibilité de surélever les toits, c'est ça, de 20 cm, je crois.
Oui, on est arrivé avec les services de l'État. Il est toujours question, au niveau paysage, d'une vue d'ensemble. Et le village de Celle a une morphologie particulière. Et c'était, à l'époque, des maisons avec la cave, l'habitat, et en dessus, un grenier. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne vit plus du tout de la même manière qu'en 1950. Et donc, on s'est rendu compte, avec les services de l'État, que si on augmentait de 20 cm les maisons, la hauteur des maisons, on pouvait passer à un étage supérieur. Le grenier pouvait devenir un vrai étage et donc avoir beaucoup plus de facilité pour faire des maisons qui correspondent à la vie d'aujourd'hui. Et ces 20 cm, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait par des bénévoles sur des schémas en 3D pour voir vraiment ce que ça allait donner. Et franchement, ça change pas du tout la morphologie du village.
Voilà. Vous travaillez, oui, main dans la main avec les Bâtiments de France, bien sûr.
On a travaillé avec l'inspecteur du site et l'architecte des Bâtiments de France pendant des années et c'était bien. Voilà.
C'est lui qui est venu, qui a expliqué un peu quelle façade allait pouvoir changer un petit peu, laquelle devait rester telle quelle.
Alors, le travail avec le service de l'État, il a commencé avec le CAUE quand on a fait la charte architecturale et paysagère. Déjà à l'époque. Et après, on a travaillé avec l'inspecteur du site qui nous représente et avec l'architecte des Bâtiments de France qui est venu une fois que nous, on avait déjà décrypté toutes les façades, toutes les fenêtres, toutes les ouvertures et tous les faîtes de toit. Et lui est revenu faire le tour avec pour refaire exactement le même travail avec nous et nous dire ce qu'il en pensait. Et voilà. Donc c'était vraiment un travail d'équipe.
Clément Dumoulin a été recruté par le conseil municipal de Selles comme chargé de mission de réhabilitation. Comment la municipalité compte-t-elle gérer l'aspect touristique qui risque forcément d'être indissociable du projet ?
On ne sait pas. Je pense que ça fait partie de la beauté du projet. On est dans un environnement qui est spécial. On a une fréquentation touristique qui est déjà là. Quelle sera la prochaine fréquentation touristique quand le village sera réhabilité, que le parking ne sera pas juste à côté? On n'a pas vraiment la main dessus, mais il y aura des parkings visiteurs qui vont être installés un peu plus loin du village par le département. Comment elle va gérer? En tout cas, nous, on a voulu dans notre planification en termes d'urbanisme d'avoir un espace plus propice à l'accueil des visiteurs et un espace plus propice à la vie des habitants. Et après, en termes d'accueil du public, on aura des bâtiments publics. Je ne connais pas forcément la destination, à part quelques-uns, mais une maison des entreprises avec un espace de coworking et un bâtiment commercial. Tout ce que je peux dire actuellement, c'est que cet espace commercial, les modalités de gestion seront définies par les futurs habitants, bien sûr avec la commune. Et donc, ça sera aux futurs habitants avec la commune de définir cette politique touristique et je peux pas vous dire qu'est-ce que ça sera, mais en tout cas pour moi ça peut être un terreau fertile à de l'innovation touristique sur des sites fragiles et naturels. Il y aurait beaucoup de choses à dire, en tout cas moi ça me passionne, mais je peux pas parler de ce qui va se faire, vraiment pas.
La spéculation foncière, est-ce que c'est le plus grand danger qui guette la future ville?
En tout cas le premier objectif, c'est comment pérenniser le projet. On fait tout pour l'éviter la spéculation, parce que ça pourrait avoir un impact sur le village mais aussi sur la vallée s'il y a beaucoup de spéculation. Donc on met tout en œuvre à travers les documents juridiques, donc les modalités d'installation pour l'éviter. Si dans 20 ans le village se revend à des sommes incroyables, oui, pour moi ça fait partie d'un des plus grands dangers, mais on met énormément d'énergie à sécuriser les modalités d'installation et d'éviter la spéculation.
Ouais, c'est vraiment la pérennité l'objectif.
Mais c'est aussi lié à l'objectif de mixité sociale. Si la spéculation est permise sur le village, on va vite se retrouver avec du foncier trop cher pour permettre la mixité. Les objectifs sont quand même assez liés.
Celles, du coup, les premiers nouveaux habitants, nouvelles installations sont prévues, vont être signées. Pour autant, tout n'est pas fait.
Tout n'est pas encore fait. Là, les premières signatures, bien sûr, on sera sur des signatures de documents temporaires. Ce système d'OFS, BRS, donc Office Foncier Solidaire et Bail Réel Solidaire, ça va nous prendre du temps à le faire. On est sur des outils juridiques qui sont très nouveaux. Et nous, on a besoin d'un temps là pour les temps légaux, on va dire, d'acceptation par les ministères, etc. Et on a encore beaucoup de questions. On doit venir questionner ces documents. Comment intégrer l'activité économique dans ces contrats? On n'a pas encore la solution, mais on travaille directement avec les services de l'État pour essayer de trouver les documents qui sont les plus adaptés, on va dire, à notre projet.
C'est-à-dire une activité économique pour un porteur de projet, ça ?
Chaque foyer, une activité économique, ce qui reste un des axes majeurs du projet pour éviter le village dortoir, que des activités qui ne sont pas liées directement au tourisme, pour éviter que le village se développe que par l'activité touristique.
Bon, le bébé est bien parti.
Le bébé est bien parti. Oui, je pense que le bébé a besoin de grandir aussi. Ça fait partie de la... C'est plusieurs aventures, en fait. On a vraiment une aventure d'une équipe municipale qui s'est battue pendant 50 ans pour certaines, pendant très longtemps. Et là, c'est une nouvelle aventure qui va démarrer pour les futurs porteurs de projets. Beaucoup de gens le suivent avec attention. On a un aspect symbolique, je pense, sur le lac. D'autant plus, là, on fête les 50 ans. Et puis... On essaye vraiment de travailler le plus possible avec tous les services d'État qui sont très proches du projet, qui ont un regard très, très souvent bienveillant sur le projet, mais qui est compliqué, qui est aussi compliqué pour eux que pour nous trouver des solutions avec eux. Donc moi je le suis, les services de l'État le suivent, c'est aussi notre force, et puis aussi beaucoup de professionnels bénévoles qui viennent nous accompagner sur le projet.
Il est déjà temps de refermer ce troisième épisode sur l'histoire du village abandonné de Selles au bord du lac du Salagou. Merci à Martine Raymond, Névergne, à Bernard, à Claude Servelle, à Joël Goudal et à Clément Dumoulin d'avoir bien voulu nous parler de ce projet. Dans le prochain épisode, le dernier de notre série, nous rencontrerons deux nouveaux habitants. Ils nous raconteront leur projet et leur vision de leur futur village. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine sur Radio Pays d'Hérault. Je vous laisse avec les réactions de différentes personnes après la cérémonie d'installation des nouveaux habitants de Selles. Merci de votre écoute et à bientôt sur RPH.
La pierre, première pierre, ouais, ça sera bientôt, mais là c'est juste une signature. C'est vrai que je suis plus terre à terre, on va dire.
Du concret, quoi.
Ouais. Je pense que ça sera plus quelque chose quand on ouvrira la porte et qu'on commencera vraiment les travaux, quoi. On a commencé à déblayer un peu pour pouvoir poser le permis de construire, voilà. Pouvoir aller dans les ruines sans que ça soit trop dangereux. Ça le reste. Ouais. Mais voilà.
Vous en êtes où sur le permis de construire, justement ?
On espère le déposer dans 15 jours. Ouais. On va faire un dépôt commun avec Sébastien et Caroline. Voilà.
Un dépôt commun. Commun.
On va poser. C'est deux permis différents, mais on va les poser en même temps, voilà, le même jour. Symboliquement.
Très bien. Soudé entre nouveaux habitants.
On s'entraide, ouais. Ouais. Après, petit à petit, on apprendra à vivre ensemble. Peut-être qu'on s'engueulera et on se parlera plus, j'en sais rien. Mais... Comme dans les villages, des fois. Mais pour l'instant, ça se passe très bien, c'est super.
François Marty, fondateur de la foncière Chenelet, qui gère les 7 logements sociaux prévus dans le futur village de Selles.
Non, c'est un truc idiot. Ma femme voit Joël à la télé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, elle s'aperçoit qu'elle dit « J'ai trouvé quelqu'un d'encore plus perché que toi, quoi. » Et le Salagou, moi, je connaissais très bien à cause de Saint-Guilhem, à cause de tout ça. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Et on s'est dit « On va l'appeler, quoi. » Mais elle était très, très, très méfiante. Mais comme tous les gens qui portent leur projet, leur bébé, ils ont peur d'un promoteur immobilier qui viendrait faire du fric ou toutes ces choses-là. Donc, on est passé la voir et c'est là qu'a démarré une très, très belle amitié. Puis elle est venue chez nous, parce qu'elle bouge, hein. Je l'aime beaucoup. Heureusement qu'elle habite à 1000 km de chez moi, quoi. Elle est venue, puis elle a vu qu'on avait des vraies usines, des vraies maisons, qu'on était 300 salariés, tout ça et tout. Donc, ça l'a vraiment interpellée. Et après, elle pensait qu'on allait se décourager en route, parce que c'est très très long ce qu'elle a fait. Mais moi, je suis habitué à ce que dans le solidaire, les projets sont toujours très très longs. Et on gagne parce qu'on tient le coup sans broyer son rêve. Des fois, j'ai essayé de construire pour des bailleurs sociaux classiques, puis ils me disent, ouais, mais monsieur Marty, la paille et le bois, bon, c'est quand même mieux les parpaings. Bon. Mais oui, mais la laine de verre, c'est quand même moins cher que la laine de bois. Bon. Puis, toiture végétalisée, c'est moins beau qu'une tuile. Bon. Après, il n'y a plus que le nain de jardin qui a un capteur solaire. C'est comme ça qu'on se fait user ses rêves. Et moi, ça m'a pas gêné du tout qu'elle prenne le temps, mais elle, comme c'est son projet, que c'est la première fois qu'elle fait, elle pensait que je me découragerais et que notre bande se découragerait en route. Mais on est habitué à ça. Les vrais projets, c'est le combat d'une vie, quoi.
Voilà. On a une idée des loyers ou pas du tout?
Ben oui, les loyers, c'est les plus bas loyers qu'il y a en France, puisque c'est le PLAI. Alors ici, je sais pas combien c'est, ça doit être à moins de 4 euros, autour de 4 euros le mètre carré.
Ouais, enfin, ça y est, les premiers contrats ont été signés. Et c'est une nouvelle aventure qui commence, ouais. Et c'est un moment très fort, vraiment très fort.
L'aboutissement d'un premier chapitre, mais comme on le dit, d'autres chapitres vont suivre très rapidement.
Hein. Je crois que c'est l'aboutissement d'un premier tome. C'est un autre tome qui va commencer parce que on peut pas dire dans un chapitre tout ce qu'on a vécu et on peut pas dire dans un chapitre tout ce qu'ils vont vivre. Voilà, c'est un nouveau livre qui s'écrit. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'ils ont dit, mais c'est juste ce que j'avais envie d'entendre. Voilà.
Avec beaucoup d'émotions de la part de tous. On sent que enfin, voilà, c'est un demi-siècle d'histoire pour cette commune.
Ouais, c'était beaucoup d'émotions et c'était beaucoup d'émotions. Ce qui était étonnant, c'est que c'est de l'émotion pour tout le monde. Tous les gens qui ont participé, c'était même de l'émotion pour mon prof de maths et ma prof du CNCNAT qui était venue là. Et voilà, on en a tellement parlé. Et les gens pensaient tellement qu'on n'y allait pas y arriver et que là, ouais, il y a beaucoup d'émotions de la part de tous. On s'arrêtait pas de se faire des bisous, de se prendre dans les bras, et c'est trop cool. Voilà.
Bon, on a senti entre les lignes qu'il y avait eu beaucoup de luttes de votre part face aux administrations.
Ouais, c'était pas que de ma part, on était toutes. Mais oui, il y a eu. C'était pas de la lutte par rapport aux administrations, c'était les convaincre qu'on n'était pas tarés. Voilà, c'était vraiment ça, parce que quand on arrivait, le fait de faire d'une utopie une réalité, c'était vraiment ça. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils pensaient vraiment que c'était juste un délire. Et quand ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était quand même un truc qui tenait la route, là, ça a changé. Mais la bagarre, elle a été dans tous les petits trucs, faire accepter qu'on ait un assainissement à sel, accepter tout a été à discuter. Mais la chose la plus dure à faire entendre, c'était que notre projet, c'était pas du délire. C'était une réalité autre que celle qu'on voit partout, mais que ça pouvait marcher. Voilà. Une fois qu'ils ont été convaincus, ils ont été grave derrière nous. Mais je n'emploie pas les mots que les élus emploient d'habitude, c'est pas grave. Mais voilà, c'est ça. Et la lutte, elle était aussi là-dedans. C'est pour ça qu'ils parlent de pugnacité, que je suis pénible et que je les lâche jamais. Parce qu'il fallait vraiment que j'arrive à les convaincre. Voilà, et on a fait un projet hors des sentiers connus.
Trois premières familles porteuses de projets, vous en cherchez d'autres?
Ah oui, on relance là l'appel à candidature, sachant qu'on est très très strict sur la viabilité des projets qui vont être choisis, parce qu'on ne peut pas permettre aux gens de venir rêver, de s'installer et de se planter. Donc on préfère être hyper rigoureux au départ pour leur assurer la vie la meilleure qui soit, quoi, qu'ils viennent pas à celle avec un beau paysage et rien à bouffer. Alors là quand même, ils déposent les permis de construire à la fin du mois et à la mi-octobre, il y a les travaux de viabilisation qui commencent. Donc ça y est, on va éclater les rues pour faire passer tous les travaux. Il n'y aura pas des habitants, mais il y aura de la vie et il va vraiment y avoir du bazar et du bruit.